vie contre la mort.
Absolument. On va revenir sur ce côté passerelle comme ça de Franju à l'histoire du cinéma, c'est-à-dire bon, ce documentaire sur Méliès, cette filiation Feuillade avec laquelle il a travaillé, enfin il a travaillé avec vous pour cette filiation Feuillade en faisant donc le Judex dont vous êtes le scénariste, et votre père lui-même était,
disons, était le gendre de Feuillade.
Le gendre de Feuillade, donc c'est une affaire de famille.
Et son chef opérateur.
Et son chef opérateur. Donc on va peut-être parler de cette filiation après avoir écouté quand même la musique des yeux sans visage. Alors donc là, on a entendu la musique de Maurice Jarre dont nous parlions, disant que c'était une très belle musique, en tout cas celle des yeux sans visage est vraiment très belle, et toutes les musiques qu'il a faites d'ailleurs pour Franju sont vraiment très très belles, et le son que vous avez entendu qui est un petit peu parallèle ou parasite de la musique, c'est le son de la deux chevaux conduite par Ali Davali, cette deux chevaux, cette bête terrifiante, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Edith Cobb?
Il y a deux voitures, il y a une deux chevaux et puis une déesse, et c'est des personnages assez terribles. Donc Ali Davali part avec sa bagnole et elle cherche des futures victimes pour pouvoir pour que Pierre Brasseur, le chirurgien, puisse procéder à une greffe de visage et pour que la greffe qu'on fait sur mon visage puisse finalement tenir, parce que je suis la fille de Pierre Brasseur dans l'histoire.
Et alors, donc cette voiture, je crois que j'ai retrouvé un petit texte, c'est Michel Delahaye, je crois, dans je sais pas quoi, je pense pas vraiment un numéro des Cahiers du Cinéma, qui dit que cette voiture des yeux sans visage, c'est un peu la charrette fantôme. Je trouve ça très beau. Et
ah
c'est
oui.
Tout à fait vrai.
Mais est-ce que c'est le talent et même le génie de Franju, c'était que, avec un objet quotidien comme ça, il arrivait à rendre terrifiant n'importe quoi.
Oui.
À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait de plus commun qu'une deux chevaux?
Bien sûr.
Seulement, effectivement, c'est pas une voiture faite pour le crime. C'est lent.
C'est une voiture qui roule la nuit, la plupart du temps.
Oui, on la voit dans la nuit, oui, comme ça. Non, mais je veux dire, c'est une voiture bourgeoise pour petite mémé, pour jeunes gens, on va dans les champs avec. C'est pas une voiture pour le crime, c'est ni rapide, ni on n'est pas habitué à voir dans les films policiers des voitures de ce genre.
Oui, absolument.
Et par contre, la voiture de Brasseur, alors la déesse de Brasseur, alors là, c'est la mort qui s'avance. Hein.
Edith Cobb, pourriez-vous parler de ce visage que vous avez dans les yeux sans visage, justement, de ce visage et de ce masque?
C'est bizarre, c'était le premier rôle important que je français au cinéma. Et donc avant le tournage, je suis allée voir quelqu'un qui faisait des masques, qui a pris un masque de moi, qui a fait un masque en plâtre de moi. Puis après, de ce masque en plâtre, on a fait un minuscule masque en caoutchouc, mais très 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 fin. Et donc tous les matins au maquillage, je mettais ce masque qui était donc mon visage. On me mettait ça sur la figure, on le collait. J'avais juste les yeux, mes yeux, et puis il y avait juste une fente pour la bouche, et c'est tout. C'est comme ça, du matin au soir, isolé, exclu du monde extérieur. Hein.
C'est drôle parce que vous restiez exclu du monde extérieur, et c'est tout à fait ce sentiment qui passe hein, dans l'expression de son
âge. Et comme ça, et ça m'a énormément aidé.
Oui, je veux dire, c'est fou, parce que c'est terrifiant ce que vous dites. Si le masque a eu des retombées telles que vous vous sentiez exclu.
Ah ben, un masque, c'est terrible de porter un masque toute la journée, parce qu'on peut dire bonjour à quelqu'un, sourire, et la personne vous regarde, elle a un peu peur, parce qu'elle regarde quelque chose de figé, elle ne sait pas du tout ce qui se passe, donc on communique à peu près pas.
Mais je crois que la force du masque, c'est un masque neutre. Le masque neutre, c'est une discipline au théâtre. Et avec le masque neutre, on peut représenter n'importe quoi, la mer, les oiseaux, etc. Et en plus de ça, j'en ai fait mon cours Lecoq il y a très longtemps. On se sent vraiment la mer et les oiseaux. Je veux dire, le masque neutre qui vous couvre le visage intégralement vous aide à intérioriser. Et je crois que ça rend beaucoup service.
Ce n'était pas un masque neutre du tout, du tout.
Si, il était neutre.
Oh, c'était absolument pas un masque neutre, puisque c'était vraiment mon visage.
Oui, mais il ne bougeait pas, je veux dire, il était complètement figé, ton visage.
Il était figé, mais c'était
oui.
pas...
Ce qu'il non, avait
parce... enfin, tu vois, les masques neutres, qui sont les masques blancs conventionnels, comme ça, c'est pas ça du tout. Enfin, moi, je le ressens pas du tout, en tout cas, comme un masque... neutre.
Hein. Vous m'avez donné de la vie, alors.
Non, mais je pense qu'il est... Non, mais il y a une regard d'élite en dessous, mais je veux dire, c'est ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que pour l'impression intérieure que tu as pu avoir avec cet enfermement du visage, c'est de ça que je veux parler. Quand on a le visage enfermé comme ça, tout le temps, on se sent prêt à tout. Une espèce d'hypnose, je crois.
Gérard Leblanc.
Ce qui donne de la vie au visage masqué, c'est aussi la présence... parle moins l'extraordinaire sensualité de la bouche, la présence de la bouche.
Oui, et la bouche bouge un peu quand je vois. La bouche bouge un peu. Si je bouge, il y a des petits plis qui se font sur la joue et tout ça. C'est pas.
Et la bouche est perpétuellement.
Je défends mon masque.
Bien. Non, mais je retire le mot neutre. Je veux simplement dire que le fait qu'on a un masque qui vous couvre le visage, qu'on sent sur la peau comme ça. Ça crée une sorte d'hypnose.
Et croyez-moi que Jacques Champreux parle en connaisseur et en connaissance de cause, parce que c'est vraiment l'homme masqué, les nids rouges. Et là, je ne sais pas combien de masques vous avez dans les nids rouges.
Ah ben, c'était différent, ça. C'était...
Vous avez combien de visages, déjà?
Ah ben, je crois que dans le film, j'en ai 9. C'est-à-dire que, en fait, quand on a eu fait Judex avec Franju, et puis j'avais fait... L'île mystérieuse avec Bardem, et la télévision nous a proposé de faire Fantomas. Franju et moi, on était ravis. Puis l'affaire est tombée à l'eau, et j'avais préparé, pour mon plaisir, comme ça, un grand scénario, par admiration pour... comment s'appelle-t-il cet extraordinaire comédien américain, zut, que j'admire beaucoup, dont j'ai oublié le nom maintenant, j'ai un trou de mémoire, Lon Chaney.
Ah, Lon Chaney, alors
Lon Chaney, le père.
Oui, bien sûr, Lon Chaney, père, oui.
Et je m'étais amusé...
Browning. Voilà, c'est ça.
Et je m'étais amusé à écrire comme ça des scénarios, un scénario tout à fait en longueur, et puis où le personnage principal avait comme ça des tas d'apparences, et puis on n'a pas pu faire Fantomas, et j'ai proposé ça à la télé, et puis voilà, donc dans le feuilleton qui dure 8 heures, il y a je ne sais plus combien de personnages, mais ce n'est pas des masques, ce sont des maquillages.
Ouais. Ah, ce sont des maquillages.
Ce sont des maquillages uniquement.
Ouais. Et moi, c'est drôle parce que le masque que vous portez... Edith Scob dans Les yeux sans visage, on voit que c'est un masque, mais il y a des moments où il a presque des allures de maquillage aussi, de peau, quoi.
Oui, oui, oui.
À cause de la bouche.
Mais ça, c'est pas un masque d'hypnose.
Bien, je retire tout ce que j'ai dit, on va couper pas l'émission.
Bon, ça m'amène quand même à dire une chose, c'est que ce rapport au masque, en revoyant les films de Franju, là, et en voyant surtout Thomas l'imposteur, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un rapport à la théâtralité et au théâtre chez Franjeux qui est énorme. Et ça n'a pas été tellement dit, ça. Quand même, Thomas l'Imposteur, c'est un film incroyablement beau, d'abord. Moi, je ne l'avais jamais vu. Hein. C'est le seul film de Franjeux que je n'avais pas vu. Je l'ai découvert là, c'est un film merveilleux. C'est un film de la haine, de la guerre, mais on reviendra, on parlera de Judex tout à l'heure. Et bon, cette haine de la guerre chez Franjeux, qui est belle. Mais en même temps, je dirais, c'est le théâtre des opérations. Alors, c'est drôle parce qu'il y a un texte dans ton livre, Gérard, sur le théâtre des... Enfin, dans le livre, les recueils de témoignages sur Franjeux, qui s'appelle le théâtre des opérations, mais c'est sur le docteur...
Thierry de Martel,
oui.
Le trépanateur, oui.
Le trépanateur. Et je dirais, c'est drôle parce que ça se rejoint, mais sous un autre angle, c'est le théâtre des opérations dans Thomas l'Imposteur, mais dans le rapport à la théâtralité. Et je me suis aperçue que chez Franjeux, dans la direction d'acteurs, ça m'a beaucoup frappée, y compris dans vos personnages, Edith Scob, c'est le geste et la manière, parce que c'est pas du tout un cinéaste qui fait de la psychologie, c'est pas un cinéaste, c'est un cinéaste très difficile à saisir du point de vue de la direction d'acteurs. Et je me suis aperçue que c'est beaucoup sur la gestuelle, et il y a quelque chose qui est un petit peu, non pas dans l'excès, mais qui se retrouve dans le... C'est un style de Franjeux, de direction d'acteur, alors qu'on a souvent dit Franjeux, la direction d'acteur, hein, etc. Moi, je pense qu'il y a un grand style de direction d'acteur chez Franjeux, et moi, ça m'a beaucoup étonné vos gestes. Je voudrais savoir comment ils vous faisaient marcher. Par exemple, dans Les yeux sans visage, on dirait que vous glissez comme un cygne. C'est vrai, le pas, il y a une espèce de légèreté de pas comme ça. Alors, comme il y a le masque qui est très présent... Votre silhouette, on a l'impression qu'elle ne fait pas de bruit, elle est furtive, on n'entend pas. Mais et ça, c'est la démarche, le geste.
C'est peut-être... m'a pas dit grand-chose, Franjeux, par rapport à démarche et tout ça. Mais c'est peut-être le fait de porter ce masque qui n'exprime rien, ou peut-être instinctivement, intuitivement, j'avais l'impression que mon... C'était peut-être mon corps, que c'était là où je pouvais exister. Donc c'est des... Mais je crois que c'est intuitif, hein, parce qu'on ne sait pas beaucoup parler de ça.
D'ailleurs, quand vous parlez, vos gestes, c'est incroyable les gestes que vous avez quand vous parlez. Vous avez des gestes comme ça, extrêmement gracieux. Et je trouve que dans votre silhouette, alors chez Franjeux, il utilise à fond la réalité de vos gestes, hein, en fait.
Oui, je crois que c'est plus lié à votre personne qu'à votre personnage, parce que cette façon de glisser, c'est aussi dans Judex, c'est aussi présent dans Judex, presque autant que dans Les yeux sans visage ou ailleurs chez Franjeux. Donc c'est plutôt... Vous, en tant que...
Oui, c'était
personne.
Une silhouette avec une grande robe, en général, avec...
blanche.
Sans talons, et donc une possibilité de marcher rapidement, ou même de pouvoir courir sans faire de bruit, effectivement. Parce que Franjeux, je n'aimais pas beaucoup des actrices qui couraient, il me faisait toujours des tas de trucs, il me disait que c'était très vilain la plupart du temps, mais il m'aimait beaucoup quand je courais, et quand... Justement,
d'ailleurs, ça vous fait beaucoup courir.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui vous fait courir?
Oui.
Dans Thérèse Desquérou, vous courez.
Oui.
Vous courez partout, hein. Sans Thomas l'Imposteur.
Non.
On pourrait revenir. Moi, j'aimerais bien, Gérard, que tu me précises le contenu. C'est un peu bête de dire ça, mais bon, ton livre, tu l'as appelé une esthétique de la déstabilisation. Pourquoi de la déstabilisation? Quel mot pour caractériser le cinéma de Franjeux? Insolite, fantastique? Pourquoi déstabilisation?
Parce que il me semble que son cinéma ne permet pas à son analyste de s'installer dans des concepts stables. C'est-à-dire qu'on se croit dans un documentaire et on est ailleurs, on se croit dans un film fantastique et on est ailleurs, on est aussi dans un film fantastique mais à la fois on est ailleurs, etc. Donc, on est ici et là, on n'est jamais en un seul lieu. Et c'est ce qui est, à mon avis, le plus moderne dans le cinéma de Franjeux, c'est qu'il est inclassable en ce sens-là. On ne peut pas dire c'est un cinéaste fantastique. On en a assez dit qui mettent en question cette appartenance, enfin, cette façon de l'enterrer, disons, dans un genre. On ne peut pas non plus. Dire qu'il ne s'intéresse pas au fantastique. on ne peut pas le mettre dans la catégorie cinéma documentaire, puisque effectivement, il s'ingénie dès le sang des bêtes à construire des images documentaires que nous ne pouvons pas regarder comme telles. Bon. Donc, déstabilisation, ça m'a paru finalement le terme le moins impropre à caractériser sa démarche. Qui, alors, s'il faut quand même la définir, oui, parce que moi je crois ce qui est le plus productif chez Franjus, c'est l'indéterminé. Ça serait la rencontre entre une démarche poétique et un intérêt pour la science, effectivement. Une démarche poétique, non pas la poésie en général, mais la démarche poétique. C'est-à-dire, on voit quelque chose, c'est ce que rappelait Jacques Champreux aussi, ce pouvoir du poète, finalement, de voir cette chaise et d'en faire autre chose. Cette chaise ne ressemble pas à ce que vous voyez. D'où la grande confiance de Franjus, parce que, à l'égard de la commande, c'est le seul cinéaste, il faut insister là-dessus, c'est le seul cinéaste à son époque qui ne se plaignait pas. Je ne crois pas me tromper, de travailler dans un contexte de commande. Parce qu'il était sûr de son coup. Vous pouvez m'obliger à filmer une statue de Napoléon, je vous la montrerai telle que vous ne l'avez jamais vue. Il était certain de ça. Et, bon, et,
effectivement.
Rencontre cette façon de rendre les choses les plus quotidiennes à l'indétermination et la démarche scientifique qui est justement le saut du visible à l'invisible. C'est-à-dire une façon de concevoir ce que nos yeux ne peuvent percevoir. Donc, enfin, c'est à mon avis ce qui est le plus productif.
Jacques Champreux.
Dans son livre d'entretien avec Madeleine Brumagne, qui est paru aux éditions de l'Âge d'Homme, il dit au début que quand il était jeune, il passait son temps au cinéma parce que, bon, c'est un secret pour personne, qu'il a toujours eu des problèmes psychiques, c'est ce qui fait sa grandeur d'ailleurs. Il dit qu'il allait dans les cinémas parce que l'image cinématographique de la réalité lui paraissait plus réelle que la réalité même. Et il l'appréhendait de cette façon-là. Et effectivement, chez Franjus, quel que soit le sujet qu'on lui donne à tourner, il va le tourner avec passion et avec angoisse, parce qu'il y a toujours cette mesure d'angoisse, je trouve, chez lui, parce que c'est à ce moment-là, il sait très bien que c'est à ce moment-là qu'il va prendre possession de cette réalité, c'est quand le film sera terminé. C'est-à-dire que le besoin de tourner, et chez lui, comment dirais-je,
l'exorcisme de ses propres démons.
Irrépressible, oui.
Mmh.
Et quand il ne tournait plus, à la fin, il passait son temps à écrire des scénarios et à préparer des films, et toute la journée, il travaillait.
Mais c'était aussi important, parce que l'écriture, pour lui, était presque aussi importante.
Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que déjà, il se retrouvait dans cette position de saisir la réalité par l'intermédiaire du film, même si ça n'aboutissait pas.
Moi, j'aimerais donc qu'on revienne un peu sur Judex, mais on va peut-être en entendre un tout petit extrait sur lequel on pourra d'ailleurs parler, parce que c'est vous qui avez écrit les dialogues, Jacques Champreux. On écoute donc un extrait de Judex.
Le cercueil était vide. Alors, les deux sœurs de charité, avec un cri de rage, se rejetaient en arrière, cependant que la bière s'écroulait sur le sol. « Qui êtes-vous donc ?» hurlait l'une des religieuses, qui brusquement menaçait sa voisine d'un revolver. L'autre sœur de charité, elle aussi, braquait un revolver. « Bah, les masques !» faisait-elle impérieusement. De leur main gauche, les deux religieuses arrachèrent leurs cornettes. Et c'était deux cris de haine qui s'échappaient de leurs lèvres. « Juve, Fantomas !» « Mais qu'est-ce que c'est ?»«
Monsieur, c'est un gosse qui... toupait, non ?»«
Monsieur Cocotin, détective, s'il vous plaît. »«
C'est moi, mon petit. Que veux-tu me dire ?»
Ben, c'est la bonne sœur qui avait enlevé la maman d'Alice avec l'ambulance. Même que les vrais infirmiers, quand elles sont revenues au village, ils étaient drôlement amochés. Et puis Alice disait que c'était son institutrice et que Marie-Jeanne, ben, elle savait que vous étiez... comment vous êtes déjà?
Je suis détective.
Ah, détective, ah oui. Et puis qu'elle disait que vous étiez détective et que vous avez été au château de la maman d'Alice pendant qu'elle était riche.
Oui, écoute, non, vraiment, je ne comprends rien à ton histoire. Non, mais attends, ça c'est Madame Aubry, ça. Et Mademoiselle Verdier. Bah, écoutez, laissez-nous, je vous prie. Hein?
Ah oui, allez-vous-en.
Tâche d'être un peu plus clair. Alors, quel rapport y a-t-il entre Mademoiselle Verdier et l'enlèvement que tu me racontes?
Ben, c'est l'institutrice d'Alice qui était sur la cheminée de Marie-Jeanne. C'est la bonne sœur de l'ambulance qui a enlevé la maman d'Alice après qu'elle soit noyée.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonne sœur?
Champreux. Alors, vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce type de dialogue? C'est évidemment extrait de Judex, donc vous êtes le scénariste. Mais ça, apparemment, ce n'est pas vous qui l'avez écrit.
Non, parce que la première partie du dialogue est en fait une lecture de Fantômas, du véritable Fantômas de Sylvestre et Alain. Et ensuite, si, disons que c'est un peu une improvisation. Jouer au canevas, comme on dit. En fait, le gosse avait son texte, qui était grosso modo celui-là, mais il était tellement, tellement dans son affaire, que quand il a perdu son texte et quand il a dit « Vous étiez détective », il a dit à Jacques Joanneau qui était en face de lui « Vous êtes quoi, au fait ?» Tout à fait naturellement. Et alors, après ça, il a... Effectivement, à la fin du dialogue, Jacques Joanneau ne comprenait rien. À la fin de la scène, « Bon, qu'est-ce que tu me racontes ? J'y comprends rien. » Ça, c'est vraiment le dialogue. Mais après ça, le salmigondi, dit « C'est la bonne sœur qui était sur la cheminée. »
Ça, c'était pas écrit,
C'était écrit, mais pas comme ça. Alors, on était tous écroulés sur le plateau, on a laissé le truc, bien sûr, parce que jamais on n'aurait pu...
Oui.
Ça, c'était absolument le texte qu'il a refait lui-même.
Ah, oui, c'est fabuleux. Est-ce que vous pourriez me dire dans quel contexte vous avez donc conçu Judex avec Frangé? Parce que c'est vraiment... Moi, je trouve qu'avec... Peut-être comme à l'imposteur, sont mes deux films préférés. C'est peut-être bizarre, je suis désolée pour les yeux sans... Mais j'aime beaucoup Les yeux sans visage, mais je trouve que Judex, c'est une œuvre poétique et merveilleuse et profonde.
C'est-à-dire que là aussi, c'était un peu un film de commande. En ce sens que on travaillait avec Lacassin sur le bouquin qu'il a écrit. Moi, je faisais la documentation, simplement. Le bouquin sur Feuillade, qui est paru chez Segers. Frangé rêvait de faire Fantômas, qu'on n'a pas pu faire, d'ailleurs. Et, ben voilà. Alors, à ce moment-là, moi, je lui ai demandé de faire le scénario. Très gentiment, je ne le connaissais pas. J'étais horriblement intimidé par lui. Je ne le connaissais pas du tout. Mais c'est moi qui avais exigé du producteur que ce soit lui qui fasse le film. Lui voulait le faire faire par quelqu'un que je ne nommerai pas, bien qu'il soit mort, mais qui était vraiment tout ce qui peut se rêver de plus bas, de plus nul dans le cinéma français, et le faire en costume moderne, enfin faire un film à petit budget. Et donc, bon, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Frangé. Et lui, donc, voulait faire Fantômas. Et puis il me dit, écoutez, on a travaillé sur Fantômas avec Jean Ferry, qui était un très, très grand scénariste et ancien surréaliste, etc. Et il m'a dit, apportez-moi un essai, et puis si ça me convient, vous travaillerez avec Jean Ferry. C'était déjà un grand pas de fait. Et puis effectivement, mais je connaissais tellement, tellement l'œuvre de Frangé, je vais en venir taquiner Edith avec les masques neutres, mais à l'époque précisément où Frangé a fait L'homme sans visage... Les yeux sans visage. Pardon. C'était l'époque où j'étais au cours Lecoq et où on travaillait avec des masques neutres et où on montait des spectacles des masques neutres. Donc tout ceci, il y avait une imbrication comme ça. Les colombes, les chiens, tout ça, mais venait naturellement parce que c'est en Feuillade. Je trouve que les chiens, la meute fantastique, les chiens qui sauvent Edith Scob, c'est dans Feuillade. Les chiens, le Feuillade lance, Judex lance sa meute pour sauver la jeune première. Donc, il a trouvé ça très... ça lui a plu, et puis voilà.